bonjour, merci d'être ici bonjour. À l'heure de bonjour. La sieste pour venir assister à une petite rencontre sympathique autour d'un couple, de, je dirais, de dessinateurs et créateurs de bandes dessinées tout aussi sympathiques qui nous arrivent d'Italie, donc de Milan, si j'ai bien compris, pour une série tout aussi joviale et sympathique, donc Chrono Squad, 4 tomes, je dirais une espèce d'ovni un petit peu improbable, qui traite de, je dirais, de tas de thèmes, dont celui du voyage dans le temps, quand même, il faut quand même bien le dire. Donc on est heureux d'accueillir donc Giorgio Albertini et monsieur donc Grégory Panaccione, arrivant de Milan et de leur atelier, tous deux ayant des talents de dessinateur et d'autres talents dont ils vont nous parler aujourd'hui. Donc bonjour messieurs, merci d'être ici. Donc et bonjour. Merci à Hugo Bellagamba, donc je dirais ex-directeur artistique des Utopiales, qui nous fait l'immense honneur de venir en tant que traducteur, translateur, aide en tout genre pour cette table ronde. Donc bienvenue. Tout d'abord, petite question à tous les deux, savoir si vous pouviez donc en quelques mots nous présenter un peu vos parcours pour savoir comment vous vous êtes retrouvés d'une part à travailler ensemble et ensuite à travailler sur Chrono Squad.
Alors, moi j'ai travaillé dans le dessin animé pendant 25 ans à peu près, dans le dessin animé, la série télé pour la France, et j'ai fait beaucoup de storyboard pendant ces années-là. Donc storyboard, enfin je sais pas si les gens savent ce que c'est, mais c'est vraiment c'est le scénario dessiné en fait où on explique tous les angles de vue, toutes les perspectives, toutes les expressions des personnages sont définies au moment du storyboard. Et après donc il y a la partie de l'animation qui est faite ensuite, mais donc c'est toute cette partie là que j'ai fait pendant des années. Donc voilà, donc j'ai fait ça. Et après, j'ai décidé il y a quelques années, donc en 2011, d'arrêter le dessin animé parce que j'en avais un petit peu marre. Et je me suis lancé dans la bande dessinée. Et donc, je me suis retrouvé dans l'atelier à Milan avec Giorgio. Et on est plusieurs, on est neuf dessinateurs dans cet atelier. Et puis, en discutant, lui, il est archéologue, donc il avait déjà des idées de faire des histoires qui avaient un rapport avec les voyages dans le temps. Et puis en parlant, on s'est décidé à se lancer et à envoyer notre projet. On l'a envoyé à Delcourt en fait. Et ça a commencé comme ça en fait, voilà. Et ça a été apprécié tout de suite.
Oui, pour moi, les parcours, c'est un peu plus compliqué. Je m'excuse, je parlerai en italien.
Ouais, très mauvais.
Et Hugo, il va me traduire. Dunque, ho un percorso, dicevo, più complesso, perché io sono uno storico, un archeologo, e nell'archeologia mi occupo di disegno ricostruttivo.
Alors, le parcours de Giorgio est plus compliqué, plus décalé. Il est historien et archéologue. Et s'occupe de dessins déconstructifs en archéologie.
Sì, appunto. Quindi mi occupo di storia, lo faccio sia scrivendo che disegnando. È per questo che condivido lo studio con Grégory. E quindi parlando con compagni che fanno i fumetti, avevo una storia in testa e ho pensato di dargli.
Alors il est venu à la bande dessinée après avoir fait également du dessin, puisqu'il fait du dessin dans son travail, il écrit et il fait du dessin aussi en tant qu'archéologue. Et le fait d'avoir eu des liens dans le milieu de la bande dessinée en Italie, qui est très important d'ailleurs dans la culture populaire en Italie, il est petit à petit arrivé à créer, à imaginer une histoire et donc à vouloir bien évidemment la mettre en bande dessinée.
Non so, possiamo incominciare a parlare della storia. La storia, quindi... è una storia di viaggio nel tempo e nasce soprattutto dal desiderio di raccontare il tempo, la storia, con gli occhi del quotidiano. Per cui andiamo all'interno della storia senza le comuni situazioni che si trovano in un viaggio nel tempo, perché non ci sono problemi di
paradosso
temporali.
Très bien. Donc en fait, c'est une histoire de voyage dans le temps, évidemment, un chronosquad, mais une histoire de voyage dans le temps, on pourrait dire, vue par le petit bout de la lordienne, vue par la vie quotidienne, par la vie au quotidien des acteurs de l'histoire, et donc on n'est pas dans les logiques ou dans les problématiques du tout des paradoxes temporels, au contraire, on est dans le quotidien des voyageurs temporels, c'est vu du point de vue du quotidien de l'acteur lui-même.
Voilà, ouais. Oui, c'est ça, ouais. C'est qu'on voulait vraiment faire quelque chose qui parle d'histoire, mais qui le parle pas de l'histoire avec un grand H, mais la vie de tous les jours, comme si on allait, par exemple, maintenant en Afrique, d'aller dans les endroits où il y a encore des tribus, et de voir le côté aussi des pauvres gens, quoi. Enfin,
oui, c'est la banalisation du voyage dans le temps, comme si le voyage dans le temps était un mode de transport.
Non, c'est pas tellement ça, en fait. Dans notre histoire, en fait, c'est une agence du temps. Donc on imagine que c'est un peu comme un Club Med, où dans certaines époques, il y a une agence qui est bien organisée, où on a le cocktail pour l'apéritif, on est tout bien protégé, etc. Mais donc ces chronosquads-là, c'est une équipe donc d'espèces de policiers, on va dire, qui vont résoudre les problèmes des touristes qui s'enfuient ou qui se font kidnapper. Et donc, ça oblige donc les chronosquads à aller à des endroits où c'est la vraie histoire, donc les gens de tous les jours qui ils vont rencontrer les gens de l'époque où ils sont, mais pas protégés. Donc c'est là où ça devient plus compliqué.
Appunto, lo spunto narrativo di questa vicenda è proprio il fatto che il viaggio nel tempo è possibile. Il viaggio nel tempo è possibile, ma è un viaggio in realtà in altri tempi. Cioè si viaggia in una linea parallela che tocca altri periodi storici su altri universi, universi paralleli.
Altre dimensioni.
Sì. Per cui evitiamo ogni paradosso temporale in questo modo, cioè non andiamo mai a intaccare la nostra storia. Quindi se noi torniamo indietro nel tempo, questi nostri personaggi, e uccidono Hitler nel 1933, uccidono Hitler di quella linea temporale e non un'altra linea.
Capito.
Temporale.
Oui, donc c'est pas du tout une histoire de paradoxe temporel, au contraire, ils ont complètement évacué l'idée de paradoxe temporel en travaillant dans des univers parallèles, évidemment. C'est-à-dire que les voyageurs, comme dans un Club Med, effectivement, peuvent aller dans n'importe quel moment du temps, mais c'est dans des lignes parallèles de temps. Ce qui fait que tout ce qu'ils peuvent faire n'a aucun impact sur la ligne dont ils sont originaires, de là d'où ils viennent, en fait.
Voilà, aucune incidence.
C'est pas du tout, c'est pas le ressort narratif du projet.
Ouais. E dunque il viaggio nel tempo diventa un viaggio molto, molto comune, molto semplice, un po' caro, abbiamo diverse pubblicità all'interno della storia dove si vede quanto costa a tutti gli effetti questo viaggio, è un viaggio non caro, non proprio a buon mercato, ma che tutti possono fare. E quindi il turismo nel tempo diventa un turismo di massa, con tutti i problemi del turismo di massa.
Oui, donc le voyage dans le temps, c'est un tourisme de masse dans cet univers de Chronosquad. Donc c'est cher, mais pas si cher que ça, ce qui fait que beaucoup de personnes peuvent y accéder. Donc c'est vraiment l'équivalent d'une agence de voyage, mais simplement agence de voyage temporelle, avec aucun risque de paradoxe. Et donc l'idée, c'est de voir quel est l'impact sur la société de ce tourisme de masse, voilà, auquel chacun d'entre nous peut accéder.
Et soprattutto sfruttando, pardonnez-moi,
on est mort.
No, e soprattutto quando si viaggia in questi mondi paralleli esiste un décalage temporale tra questi mondi che permette, cioè come ci fosse un jet lag che permette in 3 giorni effettivi di viaggio di stare magari un mese, perché corrisponde a un mese di quel mondo, per cui di guadagnare molto tempo.
Capito. Donc, du coup, il y a aussi l'avantage que le temps ne s'écoule pas tout à fait de la même manière, il y a une sorte de jet lag temporel qui fait que dans le voyage, même si le voyage prend 3 jours dans la réalité d'où on part, en réalité il peut se passer 3 mois, donc ça peut être des vacances très longues, et donc les gens vont évidemment aller les chercher massivement.
Ouais. Les employeurs sont assez contents de ce genre de choses, parce qu'en fait ils payent les 3 jours de vacances aux salariés, et puis en fait la personne fait un mois de vacances, donc c'est assez agréable pour
eux. Vous avez évacué le problème du paradoxe simplement en n'en tenant pas compte, en fait, finalement, parce que ça, il pourrait produire un paradoxe à chaque fois, en fait.
Non, parce qu'en fait c'est des dimensions différentes,
dans une autre dimension, comme ça. Ouais. C'est pas dans notre dimension, il va pas non diventa conflittuale con la nostra dimensione.
Ouais, sur certaines planches qu'on voit là, il rencontre Léonard de Vinci et la première idée en fait c'était quoi? C'était aussi faire part, j'imagine, de ta passion pour l'histoire au départ sur le scénario,
vraiment
de faire participer le public, disons, à la passion du premier métier de Giorgio.
Initialement,
montrer que les autres époques c'était peut-être soit c'était mieux avant, soit finalement non, c'était pas si bien, et donc ils reviennent et on est content d'être présent.
Initialement, cioè io avevo una rubrica su una rivista in Italia che si chiama Focus Storia, dove si chiama Manuale del viaggiatore nel tempo.
D'accord, à l'origine Giorgio a une rubrique dans une revue scientifique, revue scientifique qui s'appelle Focus Histoire, et il fait depuis longtemps une rubrique sur le petit manuel du voyageur temporel. Et il donne des indications, des recommandations au voyageur temporel, comme si le voyage temporel était finalement une réalité. Et c'est le point de départ, le moteur en fait, hein, le préalable de cette Chronosquad. Et alors, ta question c'était...
Non, c'était juste...
Sur la passion de l'histoire.
C'était à peu près ça. Alors juste par rapport en fait à l'esthétique des livres, de l'histoire, le choix graphique, le choix des couleurs, et en plus le fait que vous ayez employé tout à l'heure le terme de Club Med, hein, sur l'aspect touristique, moi je tiens à quand même préciser que c'est pas les bronzés au néolithique. Hein, c'est quand même une histoire adulte, jubilatoire, et ça part dans tous les sens, on est d'accord, je pense que c'était intentionnel, mais c'est quand même relativement adulte, parce que ça, par moment, au détour d'une page, on se dit, tiens, là, on se fait plaisir, c'est rigolo, ce n'est entre guillemets, à un moment donné, peut-être que rigolo, et puis paf, on tombe sur une page, une petite réflexion, on se dit, ah, mais je vais pas la filer à lire à mon gamin, quoi. Ou alors, je lui fais sauter la page, quoi. Il y a quand même des petites ambiguïtés comme ça. On sent que vous vous êtes fait beaucoup plaisir, hein, le plaisir de votre travail se voit à la lecture du livre, mais voilà, de temps en temps, il y a des petites choses qui nous rappellent que c'est quand même, entre guillemets, un délire adulte, quoi, je dirais.
Oui, mais abbiamo cercato di essere realistici, cioè la vita è questo, è soprattutto una vacanza, c'è molta felicità, gioia, ma sono vacanze calate in epoche molto violente, per cui se si arriva a contatto con queste epoche, la violenza c'è subito.
Alors le but c'était de faire un projet très réaliste, le réalisme de la vie quotidienne avec ses petits travers, ses petits problèmes, mais aussi le réalisme des époques visitées, c'est-à-dire que ce sont des vacances, c'est le Club Med temporel bien sûr, mais lorsque les voyageurs temporels arrivent au contact des populations de l'époque dans laquelle ils se trouvent, il peut y avoir d'un coup un surgissement très, très rapide de la violence.
Et de la nudité accessoirement.
La nudité.
Un petit peu. Enfin, je repense à quelques dialogues. Je vais pas.
Non, la nudità nelle epoche antiche.
Non.
Cioè gli scavi romani erano continuamente nudi. Il mondo
egiziano. Oui, la nudité dépend, dit Giorgio, beaucoup des époques visitées. Toute l'Antiquité, les gens étaient principalement nus. Surtout les esclaves, il y avait énormément d'esclaves. Donc la nudité fait partie du projet dès lors qu'elle fait partie de l'époque visitée.
Et alors, comment est-ce que l'on fait 4 albums en 2 ans
En 1 an et demi, ouais.
Un an et demi.
Bon, on travaille vite. C'est ça.
Et beaucoup.
Et beaucoup, non. Normal.
Non, ouais. Lo dicevo anche ieri. Grégory est vraiment une force de la nature. Riesce à produire une quantité de pages, d'énergie qui n'a égale dans la bande dessinée.
Alors, il explique que Grégory est une force de la nature qui a une énergie inégalée dans tout le milieu de la bande dessinée italienne. C'est le seul dessinateur capable de produire 4 albums en si peu de temps.
Non, en exagérant rien. Il y en a d'autres.
C'est Maio, traduce l'italien.
Ah, d'accord.
C'est le seul dessinateur, voilà.
Mais lui aussi va assez vite aussi à écrire. Hein. Il parle comme ça, mais il fait plein de choses en même temps. Il arrive en plus à écrire vite. Donc, en fait, on était tous les deux assez proches au niveau du travail. En fait, lui, il écrivait le matin. Moi, je dessinais l'après-midi, et etc., etc. Tous les jours, c'était un peu comme ça, quoi. Des fois, j'attendais qu'il ait fini avant de pouvoir dessiner.
Et en termes techniques, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Est-ce que c'est uniquement du travail traditionnel?
Non, technique, c'est que du numérique. Que du numérique. C'est que du numérique.
Parce qu'il y a vraiment une esthétique traditionnelle, quoi, je dirais presque.
Dans
tes enchaînements de cases, la pose des couleurs, on dirait presque de l'aquarelle.
Ça c'est fait exprès pour faire genre, c'est de l'aquarelle. Mais
raconte un peu le tuo modo di procedere.
Alors, ma façon de travailler est, bon, d'abord, un mois pour faire, à peu près un mois pour faire tout le storyboard, donc toutes les esquisses, on va dire, d'un tome. Et ensuite, je fais donc le clean, on appelle ça, enfin l'ancrage, on va dire. Mais je le fais tout en noir et blanc, en fait, avec les gris, et je ne pense pas à la couleur du tout. Donc je mets tous les contrastes, tout comme si c'était un film en noir et blanc. Et à la fin, en fait, au dernier moment, je mets avec un jeu de sur Photoshop, il y a des histoires de calque, etc. Je mets la couleur à ce moment-là, et la couleur, c'est vraiment rien, quoi, au niveau du temps par rapport à tout le travail du noir et blanc. En fait, c'est une technique un peu particulière, bon, qui m'est venue comme ça, parce que j'ai un peu de problème avec la couleur. En fait, ça me vient pas, c'est pas un imaginaire que j'ai facilement.
D'accord.
Donc je me le suis évité un petit peu. Je me suis dit, je vais essayer de travailler sur les contrastes, et puis la couleur, ce sera ça coulera de source, en fait. Une fois qu'il y a les contrastes, la couleur, elle coule de source, je trouve. Enfin, pour moi.
Hein. Sì, vabbè, come lo dice Gregory, sembra molto semplice. In realtà è frutto di grande talento.
Oui, il dit ça comme si c'était simple, alors qu'en fait, c'est très complexe et il faut beaucoup de talent pour le faire.
Et le choix du graphisme, en fait, est venu tout de suite en termes de personnages, le design des personnages, parce qu'il y a un aspect un petit peu rondouillard, quoi, je dirais, hein, dans le...
On s'était donné une liberté totale, en fait. Lui, il me donnait des indications sur comment il imaginait les personnages, il me donnait des photos, des fois, pour certains personnages. Pour d'autres, c'est moi qui inventais. Et puis on s'est tout permis. C'est vrai que le personnage principal, avec son gros nez et tout, il peut sembler décalé complètement. Mais en même temps, quand je pense à Tintin, il est complètement décalé par rapport au Capitaine Haddock, non, dans le style. Donc je trouve ça sympa quand il y a plusieurs possibilités de dimensions aussi, de style à l'intérieur d'un même album.
Sì, devo dire che io ho cercato di spingere Gregory verso alcune direzioni, ma Gregory ha dei fantasmi iconici che deve seguire, per cui alla fine trova sempre la sua linea, i suoi personaggi nella narrazione.
Giorgio dit qu'il a essayé de pousser Gregory dans certaines directions, notamment au niveau des personnages, et que en fait Gregory n'a fait que suivre ses fantasmes personnels. Il devait aller dans certaines directions, et c'est pour ça que les personnages sont comme ça.
Description d'un espèce de fantôme, de monstre.
Et est-ce que lorsque vous avez commencé le projet, en fait, est-ce que les quatre tomes étaient découpés, je dirais, en termes d'histoire? Est-ce que vous saviez où le quatrième tome allait s'arrêter? Et,
oui.
Et du coup, comment ça a dû être même une influence sur le choix des couvertures? L'idée de mettre un personnage principal en couverture, par exemple, ça apparaissait dans les quatre histoires, enfin, le personnage principal qui se détache comme ça,
Non, alors ça s'est révélé après, en fait. Au départ, on avait effectivement tous les quatre tomes en synopsis, donc en résumé assez simple. On avait toutes les bases, on savait exactement les bases de ce qui allait se passer, enfin toutes les étapes. On savait comment allait se finir la série, etc. Après, c'est vrai que retravailler sur le scénario, ça ouvre des nouvelles idées, ça amène des nouveaux personnages, ça fait vivre des nouveaux personnages aussi. Il y en a certains personnages qu'on pensait qu'ils allaient avoir un rôle moins important, qui ont eu un rôle plus important, en fait, en cours de route. Mais pour ce qui est des couvertures, non, ça, on n'avait pas prévu. On l'a prévu vraiment à la fin du premier tome, en fait. Enfin, vers la fin du premier tome. Quand le tome était presque fini, on a commencé à penser aux couvertures. Et ça, c'était toute une histoire, tout un conflit aussi. Ça a été très difficile de trouver, de se mettre d'accord avec l'éditeur.
Conflit avec l'éditeur,
c'était, enfin, pas tant conflit, mais d'avoir une idée claire sur ce qu'on voulait faire, c'était évident.
Chasse,
c'était pas
normalement
évident.
La couverture, c'est un peu la chasse gardée de l'éditeur, puisqu'il y a
l'aspect... Peu, ouais. Mais bon, après, c'est un peu compliqué d'expliquer tous les conflits qu'il y a eu autour de la couverture, mais on est arrivé, en fait, au bout du compte, à une espèce de compromis de tout le monde. Mais nous, on n'était pas super contents. L'éditeur n'était pas super content non plus. En fait, personne n'était content.
Donc, tu veux dire qu'il y a dans tes disques durs, il y a des couvertures alternatives?
Oui, j'en ai, J'en ai, mais bon, ça c'est une autre histoire, disons. Après, il y a des gens qui ont apprécié la couverture. Mmh. Ils ont apprécié le livre pour la couverture.
Non, mais du coup, parce que c'est vrai que ça fonctionne. Enfin, c'est vrai que le personnage en couverture, c'est un impact très fort.
Però è un po' un azzardo perché i personaggi non sono conosciuti, per cui mettere un proporre un solo personaggio diventa un azzardo. Se fosse Tintin sarebbe più semplice, ma un personaggio completamente sconosciuto è un po' più un azzardo.
En fait, le fait de mettre un personnage sur la couverture, un personnage qui n'est pas connu, qui est complètement inconnu, qui n'est pas un acteur historique ou un élément de l'histoire telle qu'on la connaît, la grande histoire, bah, c'est un peu un hasard. Donc c'était un peu insatisfaisant, j'ai l'impression.
Surtout sans trop contexter la chose.
Voilà. Ouais. Le problème, en fait, c'est ce que nous ont dit certains libraires aussi, c'est qu'en voyant la couverture, on n'arrive pas à imaginer toute la complexité de ce qu'on va trouver à l'intérieur. Déjà, on n'arrive pas à comprendre que c'est des voyages dans le temps, en voyant la couverture. Oui. On voit un personnage, mais on ne comprend pas bien derrière. Il y a des espèces de bandes, en fait, où on voit des morceaux de ce qui se passe à l'intérieur, enfin, des séquences. Et le lecteur, en fait, quand il voit le livre, il ne pense pas du tout qu'il va trouver une histoire de voyage dans le temps. Et puis, alors, par contre, le fait qu'il y ait ces quatre personnages, oui, ça a une logique par rapport aux quatre tomes, oui. Ça, on l'a bien travaillé là-dessus. On y a bien pensé.
Sì, in effetti il problema più grosso con la copertina è proprio questo, passare il messaggio che si tratta di una storia fantascientifica che riguarda il viaggio nel tempo e che riguarda soprattutto la storia. Questo appunto non si evince moltissimo.
Oui, en fait, on voit pas vraiment qu'il s'agit d'une histoire de science-fiction interrogeant l'histoire et jouant avec l'histoire, avec les personnages. Par contre, la quatrième de couverture est plutôt réussie. Je veux dire, on comprend bien que là, on est dans une agence de voyage temporel.
Oui, mais c'est pas évident pour tout le monde de retourner le livre et de lire ce qu'il y a derrière.
C'est pas exactement comme un roman, que c'est plus normal, insomma, leggere dietro, no? Quindi il fumetto, in genere, ci si affida molto al rapporto con la copertina.
Oui, il dit que dans la bande dessinée, en général, les gens ne retournent pas l'ouvrage pour lire la quatrième de couve. Ils sont attirés par la couverture elle-même et que donc, ça pose un problème ici d'identification du projet.
Mais en même temps, vu ce qui se passe dans le récit, ça aurait été quand même un sacré challenge de mettre la complexité du récit en couverture. Parce que alors là, je pense que tu pars sur une couverture.
Ouais, tout à fait. Ouais. On n'a pas trouvé d'idée encore. Hein. Même maintenant, en en reparlant, on en rediscute avec l'éditeur et tout. On se dit, mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire? On n'a toujours pas trouvé. Si quelqu'un a une idée.
Enfin, l'avantage là, c'est que vous avez quatre tomes et que l'histoire est terminée. Ouais. Du coup, il n'y a pas de frustration de lecteur.
Non, non, non.
Ils ne sont pas obligés d'attendre pour la suite.
La histoire est terminée par ce cycle, diciamo.
Et est-ce que, parce que là, du coup, vous avez quand même vous avez créé un univers, vous avez créé un principe avec le Chrono Squad. En fait, ça peut faire l'objet de 20 prochains tomes.
Oui, exactement ça. Non, dicevo, est terminée par ce cycle. Oui. Da una possibilità di infinita.
Parce qu'il vous reste quelques époques à explorer.
L'histoire est complète pour ce cycle-là, mais après, il y a des infinités de possibilités d'autres cycles sur Chrono Squad à explorer. Voilà, d'autres époques, d'autres manières, d'autres.
Ovviamente, noi abbiamo cercato di. In questi quattro tomi, ci sono moltissime epoche trattate all'interno della narrazione. Sono epoche molto spesso poco conosciute, o meglio, sono epoche all'interno di grandi ambiti storici più conosciuti, cioè se ci occupiamo della romanità antica non ci occupiamo della Roma dei Cesari ma della Roma tardantica ad esempio.
Oui, donc ils ont choisi énormément de périodes historiques hein, dans ces albums, mais ils se sont toujours positionnés sur des moments mineurs ou des choses moins connues dans des grandes périodes historiques, par exemple sur la Rome antique. L'histoire se passe pas à Rome à des moments clés, mais plutôt à des moments secondaires dans des espaces différents, moins connus par le grand public, etc. Donc on est dans de grandes phases historiques, mais dans des moments particulièrement peu connus, en fait, en réalité, ou moins significatifs.
Oui, c'est parsemé de petites anecdotes assez croustillantes, en fait, hein, que ce soit Léonard de Vinci qui, finalement, a laissé tomber son grand œuvre pour travailler sur autre chose. Et là, le choix, disons, de l'anecdote, entre guillemets, ou du personnage qui va représenter l'époque dans laquelle la folle équipée arrive, ça c'est un choix qui était sujet à discussion pour vous, ou en fait tout venait du premier scénario, de la première intention de Giorgio, ou est-ce que...
Ouais, là c'était plus Giorgio qui s'occupait de ça. En fait, son imaginaire, connaissant bien l'histoire, lui, son imaginaire, il va se focaliser sur des moments que lui a étudiés ou vécu, où il sait certaines choses que le public en général ne sait pas. Donc il va se focaliser là-dessus pour créer quelque chose, enfin, je pense.
Sì. Sì, sì, è così. Cioè, tutto nasce per cercare di parlare di qualcosa poco conosciuto o di sfatare dei luoghi comuni sull'antichità, facendo appunto, valutando tutto in rapporto tra quotidianità di oggi e antichità.
Oui, tout découle de la quotidianité, la quotidiennité d'aujourd'hui, le rapport à la vie quotidienne, finalement, la vie de tous les jours. Et il a essayé de retracer ça, justement, à chaque période historique. On est loin de la grande histoire. Et en réalité, c'est ça le but. Et aussi, il le dit, de sortir des lieux communs, des espèces de stéréotypes qu'on peut avoir sur l'Antiquité ou sur la préhistoire, ou etc. Et montrer la vie quotidienne des gens. C'est comme un documentaire, finalement.
Oui, quand effectivement, trattiamo dell'età del bronzo, ci occupiamo di un periodo che è la media età del bronzo. È un periodo, diciamo, già poco conosciuto, e lo trattiamo in Egitto con i faraoni, ma non ci occupiamo per niente dei faraoni, ci occupiamo proprio della vita quotidiana sul Nilo, di povere persone, insomma.
Oui, quand ils sont dans l'âge de bronze, le moyen âge de bronze, dans l'Égypte des pharaons, on n'est pas du tout à la cour des pharaons, on n'est pas du tout autour des lieux de pouvoir, on est dans la vie quotidienne des gens au bord du Nil, les pauvres gens qui doivent vivre et survivre au bord du Nil, finalement, l'histoire populaire, finalement. Sì.
Ovviamente in tutto questo mondo che abbiamo creato poi si inseriscono molte complessità, ad esempio ci sono delle figure, ci sono persone che decidono di passare la loro vita nell'antichità e diventano quasi dei mediatori tra la quotidianità e l'antichità. Molte persone sono stanche di vivere nel nostro quotidiano e decidono di andare a vivere in quotidiani più semplici, come ad esempio l'età del bronzo o l'antichità romana.
Il y a une grande complexité parce que certains, dans cette facilité du voyage temporel, on peut se le payer, c'est accessible, décident justement avec le jet lag temporel dont on parlait de passer leur vie finalement à l'antiquité, dans l'antiquité, de pas revenir, de rester un maximum, de dépenser l'argent qu'il faut, je pense, pour y rester un maximum. Et du coup, eh bien, ils deviennent des sortes de médiateurs, presque des gentils organisateurs, on pourrait presque dire ça, des médiateurs qui viennent pour accueillir les gens, qui viennent visiter, leur montrer comment la vie quotidienne se fait, etc., tout en restant dans la vie quotidienne véritablement, quoi.
Le personnage principal se nomme donc Thelonious Bloch. Moi, je le prononçais Bloch en me disant c'est peut-être un petit clin d'œil à d'autres personnages.
C'est un nom alsacien, Bloch.
Mais alors comment ça a été sujet de discussion,
Se qualcuno, cioè se ci sono degli storici che hanno letto questa storia, si accorgeranno che tutti i nomi dei personaggi sono tutti nomi di grandi storici.
Certo.
Thelonious Bloch si chiama come Marc Bloch, che è uno dei più grandi storici francesi medievisti, e così tutti gli altri, cioè hanno tutti i nomi di grandi storici. Sono tutti i nomi di...
Ouais. Tous les personnages ont en fait des noms de grands historiens. Thelonious Bloch, en fait, c'est Marc Bloch, un médiéviste français, voilà, qu'il connaît bien et qu'il a lu.
Sì. L'unico personaggio che non ha un nome, diciamo, di grande storico è il cattivo, il villain, che poi non è così villain, insomma, della storia, che credo sia in questo, no, in questo verde, che è Silverberg, che si chiama Silverberg come un grande scrittore di fantascienza.
Ah, che bello. Le méchant de l'histoire, enfin celui qui n'est pas si méchant que ça, mais qui est quand même le méchant de l'histoire, lui, il n'a pas un nom d'historien, mais il a le nom de Silverberg. Clin d'œil à Robert Silverberg. Voilà. C'est une femme, d'accord. Silverberg, voilà. Elle s'appelle Silverberg, qui a le nom de Robert Silverberg, évidemment.
Ça a été accueilli comment, ça, entre autres, parce qu'effectivement, une femme... Je dirais physiquement, il faut effectivement préciser que c'est peut-être, elle est entre femme et créature quand même, hein. Une espèce de géante nommée Silverberg. Comment c'est accueilli ça par le public? Ils disent pas, mais là il y a une double blague, hein, il y a un truc.
Non, au niveau physique, les gens aiment beaucoup ce personnage. Ouais. Enfin, je sais qu'en dédicace, souvent ils me demandent de le dessiner. Parce qu'en fait, c'est une femme super musclée. Moi, je l'ai. George, il m'avait demandé de suivre le physique un peu de Anita Edberg. Anita Edberg, celle qu'il y a dans Fellini, dans
La Dolce Vita.
Dans La Dolce Vita, je ne sais pas si vous voyez. Oui, ouais, oui. Mais vieille, en fait. Mais physiquement, moi, j'ai pris Serena Williams comme.
D'accord.
Donc ça fait un espèce de truc
un mélange.
Ouais. Et les gens, des fantasmes de Grégory.
Bah il y a beaucoup d'hommes qui viennent et qui me disent ah j'aime beaucoup ce personnage.
Bon, ça c'est une autre histoire.
Apparemment ça a de l'effet quoi.
Et donc il y a des personnages comme ça que parce que tout à l'heure tu disais que Grégo, que Giorgio te donnait peut-être aussi de temps en temps quelques documents photos. Les personnages font aussi partie de ça par exemple.
Bien sûr, il t'a
demandé de dessiner un des amis ou.
Ouais. Il y a beaucoup d'amis en fait.
Ah oui.
C'est
ça c'est une autre.
Et ils sont encore amis ou
une autre chose. Ovviamente all'interno della storia abbiamo molti personaggi e quasi tutti questi personaggi sono personaggi del nostro studio. Così è un gioco diciamo che facciamo tra di noi.
La plupart des personnages en fait sont des proches, sont des amis, des gens qui travaillent avec eux dans leur atelier. C'est un jeu entre eux, voilà, et donc ils sont dans la bande dessinée.
Ah ben, je vous invite à regarder. Alors, y jeter vraiment un œil de plus près parce que.
Bisogna dire questa cosa. Noi viviamo in un gruppo di disegnatori che abbiamo un rapporto col disegno un po' malato, diciamo. Cioè, disegniamo in continuazione anche quando mangiamo sulle tovagliette del ristorante.
Del ristorante. En fait, ils sont un peu fous furieux dans ce groupe de dessinateurs dans cet atelier. Ils sont complètement dans le dessin compulsif, ils ne peuvent pas s'arrêter de dessiner, même quand ils mangent à table, ils dessinent sur les serviettes de table. Et voilà.
Et Grégory est uno specializzato a fare ritratti di tutte le persone che ci sono di fianco e questi ritornano anche nei suoi
Et Grégory n'arrête pas de faire des portraits ou des caricatures des personnes avec qui il mange, avec qui il travaille et tous ces portraits se retrouvent dans Chrono Squad.
Ah oui.
D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il est apparu.
Non, questo è stato un caso perché Grégory a disegnato una persona
c'est justement par rapport au
Milo Manara et alors l'abbiamo chiamato Milo per quello.
Oui, il ressemblait à Milo Manara donc du coup ils l'ont appelé Manara. Ou Milo, enfin non, Manara.
Et donc plein de clins enfin pour moi c'est vraiment une série jubilatoire, elle se ressent à tous les niveaux dans le choix de vos personnages, les noms, le design et votre même relation. Ouais. Et là par exemple, là c'est une si je me souviens bien, c'est une double page.
Ça c'est une double page, oui.
Voilà. Alors là, bravo, chapeau, parce que alors là, mes félicitations. Comment gagner deux pages avec un tableau d'affichage énorme? Ça, je crois que c'est une leçon pour pas mal de dessinateurs quand même.
Dans quel sens? Je comprends pas.
Ah, parce que c'est quand même un sacré choix de mettre une double page avec uniquement le petit personnage perdu au milieu de cette immensité donc des départs pour montrer effectivement.
Voilà, c'était sûr.
Là, on est dans le propos
siamo all'interno del cronoscalo. Che è il posto da cui si parte per i viaggi. Ah,
l'aeroporto.
On est dans le chronosquale, l'aéroport temporel en somme, et là c'est toutes les destinations qui sont disponibles.
Les
départs. C'est l'affichage des départs.
Oui, un pannello con le destinazioni delle partenze e abbiamo un'idea di dove appunto in quel durante quell'ora si possa andare durante
voilà, ça c'est toutes les destinations de l'heure dans laquelle au moment où le personnage arrive en dessous qui passe et qui est pressé manifestement en retard et toutes les destinations qui partent simultanément à cette heure-là pour des destinations et des lieux et des temps différents. Il y a même le Gondwana, c'est bien.
Il y a même le
Gondwana, le continent mythique.
Et donc ce personnage comme tu vous disais tout à l'heure s'attache on parle plus du quotidien de la petite histoire et quand même il faut avouer que lui effectivement chaque journée ne se déroule pas vraiment comme prévu quand même.
Si parliamo del quotidiano, cerchiamo anche di parlare diciamo a un certo livello di politica. Cioè è io credo una storia anche molto politica perché ci occupiamo a più livelli di politica. Uno di questi è il rapporto della nostra cultura con le culture altre, con il visitare le culture altre, che è un po' il rapporto del turista verso un mondo che non è il nostro.
Oui, à travers le quotidien, en fait, c'est une histoire très politique qui interroge beaucoup la dimension, la politique vécue au quotidien et notamment dans les rencontres interculturelles. Comment un touriste dans notre monde réel, finalement, vient interférer avec d'autres cultures qu'il parfois ne connaît pas, ne comprend pas, etc. Et donc, il y a un questionnement politique aussi, toujours à l'échelle du quotidien, mais il y a un questionnement politique dans le rapport qu'ils ont avec ces autres cultures temporelles. Alla rencontre desquels ils vont.
Sì, e anche se volete una critica nel rapporto con i mestieri che riguardano la storia, in sostanza, la storia, l'archeologia. Ovviamente tutti i nostri personaggi sono degli storici che lavorano sul tempo, perché hanno la possibilità di andare a vedere i tempi che loro hanno studiato per davvero, insomma. E questo però diciamo rispecchia un quadro del rapporto della vita lavorativa degli storici, che è molto italiano, ma credo che sia così anche in Francia, cioè dove c'è molto precariato, dove non ci sono molti soldi, insomma, per cui...
Oui. Il y a aussi une critique de la vie en fait des chercheurs en histoire, hein, de la vie universitaire des chercheurs, un peu marquée par la précarité, un peu la solitude, un peu. Et alors beaucoup des voyageurs temporels de Chronosquad sont en fait des historiens, sans doute un peu aigris, un peu déçus, qui vont voir, qui ont la chance d'aller voir, qui se payent des vacances dans les périodes historiques sur lesquelles ils ont fait leur thèse ou ils ont étudié, etc., histoire de voir finalement d'échapper à la précarité, le côté étriqué un peu de leur quotidien de chercheur. C'est une critique aussi de la profession.
Et quand on voit certains des personnages qui finalement choisissent de rester dans l'époque explorée, c'est une nostalgie de la part des auteurs. C'est quoi ça, ça pourrait, si demain tu avais la possibilité de faire un saut avec les compagnons du Chrono Squad, tu irais dans quelle époque et est-ce que tu y resterais?
J'irai partout et je resterai. André, ovunque, non resterai. Proprio per questo, non resterai da nessuna parte, proprio per vedere ovunque.
S'il pouvait, il irait dans toutes les époques et ne resterait dans aucune, évidemment, pour les voir toutes.
Oui, c'est ce qu'ils font, en fait, parce que c'est vrai que ça, c'est là quand même la grosse exploration. Après, de temps en temps, il y a des pages comme ça d'explication avec donc, les lignes du temps, des petits moments posés comme ça, où il y a, je dirais, un petit peu la théorie derrière tout ça, en fait. Et on peut s'interroger, parce que quand on voit l'apparition des géants, quand on voit un petit peu, bon, quand ils sont en Égypte, on regarde, il y a toujours des petites phrases sur... si vous saviez presque, on a l'impression que des fois que Bloch donc est à deux doigts de je dirais de diffuser ses propres théories presque. Est-ce que t'as pas eu des fois la tentation de mettre ton interprétation de l'époque ou ton interprétation d'un je sais pas d'un mystère de construction ou autre par exemple?
Questo è un problema del rapporto con la storia. Cioè la storia è narrazione attraverso gli occhi dello storico, per cui inevitabilmente è una trasposizione di quello che noi conosciamo e che noi viviamo. Ho cercato di farlo da storico, per cui nel modo più asettico possibile, ma ovviamente è una visione personale.
Alors oui, sa vision de l'histoire est évidemment personnelle, hein, pour te répondre. Et bien sûr, pour lui, l'histoire n'est de toute façon toujours qu'une transposition. C'est-à-dire une manière dont on regarde le passé à partir d'une certaine époque. Et donc il y a toujours la subjectivité de l'historien, et il a maintenu cette subjectivité, mais en la faisant de façon très ascétique, de façon très précise, en essayant de faire vraiment un travail d'historien, mais tout en étant conscient que jamais l'historien n'atteint l'objectivité, et que donc c'est une transposition aussi qui est influencée par sa propre époque, sa propre vie, son propre présent.
Per questo che questa narrazione è più una narrazione di fantascienza che veramente di storia, non è un manuale di storia, anche se cioè noi abbiamo inserito tutti gli elementi storici che ci sono elementi che io posso comprovare attraverso documenti, attraverso reperti archeologici, però ovviamente c'è la mediazione dello storico, la storia che noi facciamo oggi non è la storia dell'Ottocento,
certo.
Ogni periodo racconta la sua storia.
Certo. Donc en fait, il explique que c'est quand même de la science-fiction, évidemment. Il ne s'agit pas de voir Chrono Squad comme un travail d'historien, même si lui est historien. Mais il tient compte du fait que les connaissances qu'il a sont celles d'aujourd'hui, ce ne sont pas celles qu'on avait au XVIIIe siècle, ce ne sont pas celles qui viendront peut-être plus tard. Donc le Chrono Squad est daté de ce point de vue-là des connaissances historiques qu'il a. Et en plus, tous les éléments de Chrono Squad sont vérifiables. Et il peut les prouver, il peut produire les sources qui étayent ce qu'il montre et ce qu'il décrit.
Oui, ça c'est ce qui est incroyable dans le récit, en fait, parce qu'effectivement, il y a tout ce côté jubilatoire entre, je dirais, Franquin et tout un tas de... On sent toute une, je dirais, toute une culture de, voilà, du gag, entre guillemets, et l'aspect hyper documenté. Effectivement, chaque petite notion, on sent bien qu'effectivement, ça pourrait être Chrono Squad complément des manuels d'histoire, quoi, en fait, presque.
C'est ce qu'on voulait faire, en fait. C'est que ce soit assez léger à lire, tout en étant complexe à comprendre. Enfin, qui est un peu les deux niveaux,
les
quoi,
deux niveaux de lecture.
In effetti noi cerchiamo, ouais, non cerchiamo mai di essere didattici, diciamo. Ouais. Cioè tutto quello che c'è di storia deve passare attraverso la narrazione del racconto, insomma. Poi vengono appunto molti elementi, ma tutto questo è all'interno del racconto.
En fait, l'histoire passe avant tout, mais bien sûr, tout est exact, hein, il le confirme bien, tous les petits éléments sont vérifiables, mais c'est pas non plus un projet de pédagogie, c'est pas un projet didactique, c'est pas fait pour édifier le lecteur avec des connaissances historiques. C'est d'abord et avant tout l'histoire au sens de récit qui fait passer des éléments historiques et des connaissances vérifiées.
Non ci sono mai spiegazioni come leggendo un fumetto storico tradizionale. In Alix abbiamo delle indicazioni con didascalie che dicono questo succede in questa, cioè qua non c'è mai l'informazione, se avviene solo attraverso la storia, se no non c'è effettivamente spiegazione. Molti mi hanno chiesto di fare un metacono squad proprio per spiegare ogni piccolo elemento, perché sono infinite.
Oui, donc en fait, il n'y a pas de didascalie comme dans Alix, par exemple, dans d'autres BD historiques. Il n'arrête pas l'histoire pour donner des petites précisions historiques sur le temps, etc., ou les éléments techniques, ou les institutions. Hein, pas du tout. Tous les éléments historiques que vous avez dans Chronosquad passent par le déroulement normal de l'histoire. On lui a demandé de faire une sorte de méta-Chronosquad, une sorte de cinquième ou de sixième volume, qui serait un volume de réflexion historique à partir de Chronosquad, et pour l'instant, il ne veut pas le faire.
L'immagine che vedevamo prima era un'immagine di... se puoi tornare indietro, ti puoi tornare la chiede... Voilà.
L'immagine,
sì, è un'immagine dove ad esempio spieghiamo come avviene il nostro viaggio nel tempo. A chi lo spieghiamo? Cioè lo spiega un personaggio che è Penn, che è la ragazza, a un altro personaggio che è Leonardo da Vinci. Questi due personaggi hanno una relazione, non faccio troppi spoiler... E il fatto di avere Leonardo da Vinci che cerca di capire degli elementi di fisica quantistica, di avere un rapporto con ciò che noi conosciamo oggi, diciamo, del mondo e del tempo, è per noi un divertimento e anche utile, perché cioè, è un genio che si applica su qualcosa di molto lontano dalla sua esperienza.
Alors la scène que vous avez, donc c'est une scène qui est avec deux personnages, donc une qui est voyageur du temps, qui a pris le Chronosquad, et l'autre c'est Léonard de Vinci. Elle lui explique les bases de physique, les bases générales, les lois du voyage dans le temps. Et donc il y a une mise en abyme qui est très intéressante, puisque Léonard de Vinci c'est le génie, mais c'est le génie qui a besoin qu'on lui explique effectivement les bases quantiques du voyage dans le temps. Donc c'est un cours qu'elle lui fait, un cours sur le voyage dans le temps, c'est une partie didactique, vous voyez, mais qui passe à travers l'histoire effectivement. Et l'histoire ne s'arrête pas à ce moment-là, au contraire, elle est dans la relation intime qu'ont les deux personnages, et il n'en dira pas plus.
Oui, mais Leonardo, c'est toujours un génie, comme ça. Il se verra.
Oui, tout à fait, il comprend bien, voilà.
En tous les cas, ça fait plaisir de savoir qu'entre Léonard de Vinci, Raphaël et tant d'autres, Chronosquad va trouver sa place dans la culture et l'histoire de l'art italienne.
À l'intérieur de la storia, ovviamente, non starò a raccontare la vicenda, però c'è una storia anche di rivendicazione rivoluzionaria, diciamo, politica, e per cui ci sono moltissimi personaggi rivoluzionari della storia, insomma, che si coalizzano, diciamo, in una internazionale intertemporale rivoluzionaria.
Oui, sans dévoiler toute l'histoire, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, il y a une dimension révolutionnaire, ou en tout cas une tension révolutionnaire dans le récit de Chronosquad. C'est pour ça qu'il y a notamment des personnages qui sont des révolutionnaires, qui ont joué des rôles historiques révolutionnaires, qui ont des rôles d'avant-garde en quelque sorte. Et c'est une façon peut-être d'internationaliser ou d'intertemporaliser l'appel à la révolution.
Alors avant de partir en révolution, puisque on va presque finir notre heure de rencontre, si vous avez des questions dans le public, donc n'hésitez pas. Et en attendant, est-ce que vous pouvez nous parler de vos projets, à part celui de prendre l'avion à 16h aujourd'hui pour rentrer chez vous ?
Alors, est-ce qu'il y a des questions ?
Je voudrais avoir une question sur le choix du format sur les BD.
Le choix du format. Qui a choisi le format?
La pagination.
Cioè il fatto perché ha così tante pagine.
Ah.
In effetti l'idea è quella di una graphic novel, cioè per cui non ci sono limiti alle pagine. Noi ci eravamo prefissati di fare circa un migliaio di pagine, e la distribuzione del migliaio di pagine è in questi quattro volumi.
C'était le projet d'un roman graphique, en fait, et donc dans un roman graphique, c'est pas comme dans une BD traditionnelle, il n'y a pas les 46 pages habituelles, ou je ne vais pas dire de bêtises. Et donc, le projet était de faire un millier de pages. Et ce millier de pages s'est distribué à peu près de façon égale dans les quatre volumes.
Si. Et les dimensions del volume, qui ne sont pas celles de l'album normal, diciamo, d'une BD française,
ouais, les dimensions du livre, c'est plus le choix de l'éditeur, en fait. Au départ, on voulait le faire plus petit, nous. On voulait le faire en noir et blanc et plus petit, avec une couverture souple, pour faire plus manga, plus... ça coûtait moins cher aussi. Mais bon, petit à petit, l'éditeur a insisté pour qu'on mette de la couleur petit à petit, même les couvertures est devenues rigides, le format est devenu plus grand.
Et ça, du coup, ça. Sur le noir et blanc.
Au départ, on était sur le noir et blanc, ouais. Ouais, mais comme les mangas aussi japonais. Comme...
C'est plus agréable et confortable de travailler en sachant que les quatre tomes vont être édités. Parce que, en fait, tous les éditeurs ne font pas ça. En fait.
Voilà, tout à fait. On a signé le contrat sur les quatre livres.
Que quand tu vois que certains projets en France qui seraient sur plusieurs tomes ne finissent jamais, je trouve ça extraordinaire d'avoir eu quatre gros tomes comme ça d'un coup en étant sûr que ça finisse.
Ouais, pas de lecteurs frustrés, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions?
Un peu de frustration, mais à la fin.
De la part des... Mais ça, c'est pour les 20 prochains tomes. Ouais. Donc, voilà, vos projets à part...
Moi, je suis en train de travailler sur un album one-shot de 280 pages aussi, un gros truc, mais dans un style complètement différent. Cartoon années 60, le style...
Avec un auteur
italien qui s'appelle Bruno Bozzetto, qui a écrit le scénario. Et voilà, donc c'est complètement délirant.
Ah, du coup, dans l'atelier, vous n'êtes pas obligé de travailler uniquement entre vous neuf?
Oui, on est obligé.
Ah, vous êtes obligé. Ah, Bozzetto, il est aussi dans l'atelier.
C'est une loi. Non, il n'est pas dans l'atelier. Ah bon. Il rigole. Il plaisante.
Bah, invece, io che sono un po' più, appunto. Ho bisogno di fare molte cose. Ho appena finito un romanzo che verrà pubblicato, credo, entro la fine dell'anno in Italia. È un'ucronia storica, anche questa, che si svolge nel Rinascimento. Io sono medievista, per cui, cioè, per me sono quelli gli anni in cui mi trovo. E poi ho anche un progetto di fumetto con Casterman, dove però disegno e non scrivo. Dove la scrittura è di David Bay, che forse qualcuno di voi conosce, e io invece sarò al disegno, sempre di carattere storico.
D'accord, alors il a plusieurs de très nombreux projets. Parmi ces projets, il écrit un roman, une uchronie sur la Renaissance. Il est spécialiste du Moyen-Âge, mais justement, les frontières entre la Renaissance et le Moyen-Âge sont floues, donc ça l'intéresse énormément.
Si svolge negli anni 90 del 400, per cui a tutti gli effetti è ancora medioevale.
Voilà, il est entre 1490, pardon, autour de ce passage, ce basculement entre la Renaissance et le Moyen-Âge. Et puis, il travaille aussi sur un projet de bande dessinée pour Casterman, où cette fois-ci, c'est lui qui dessine. C'est lui qui fait les dessins, et les textes sont de David Bay. Voilà.
Et est-ce que votre petite visite pendant le Festival des Utopiales cette année vous a d'une part donné envie de revenir, et d'autre part donné envie de refaire un projet en science-fiction?
Non.
Ok, merci.
Ben, je rigole.
Ovviamente, Chrono Squad diciamo, chiude in questi quattro volumi un ciclo che aprirà altre vicende. Diciamo, il sistema di Chrono Squad ci permette veramente di spaziare dove vogliamo e come vogliamo in ogni situazione.
Donc il ne répond pas à la question de savoir si tu es content de venir aux Utopiales ou pas, mais par contre il dit que Chrono Squad était un cycle, comme on a dit tout à l'heure. Donc pour l'instant il part vers d'autres projets, mais rien n'interdit évidemment qu'il revienne aux Utopiales pour la suite de Chrono Squad avec d'autres aventures des voyageurs temporels.
Et sont stato molto contento di venire aux Utopiales.
Et il a été très content de venir aux Utopiales.
Ce sera avec plaisir pour la suite alors. Merci à vous en tous les cas, c'était un vrai plaisir de vous entendre discuter de votre projet, de votre atelier, de la vie en Italie. Merci à vous, passez une bonne fin de festival, enfin une bonne suite de festival et bon retour à Milan.
Merci.
Merci à tous.